Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
When Washington DC was established, it was in the middle of the country.
7 milliards de voisins.
But we reject the belief that America must choose between caring for the generation
avec Emmanuel Bastide
and investing
pour les
in
voisins
the generation
et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, à l'heure d'été, avec notre série Vivre en ville, et aujourd'hui, vivre dans une ville paradoxe, Washington DC, aux États-Unis. Bonjour Raphaël Rennes.
Bonjour.
Vous avez vécu 3 ans dans la capitale américaine, comme correspondant permanent pour RFI. Vivre dans une ville paradoxe, c'est vous qui avez choisi le titre? C'est vous qui devez le défendre.
Paradoxe, pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que c'est une ville qui réserve des surprises sur tous les plans, que ce soit sur le plan climatique, sur le plan des personnes qu'on y rencontre, sur le plan la structure socio-économique, la façon d'y vivre. On s'attend à quelque chose quand on connaît pas Washington, ce qui était un peu mon cas quand je m'y suis installé. Je connaissais pas vraiment cette ville. Et finalement, on découvre presque chaque jour une ville différente et on est droit de surprise en surprise. C'est vraiment une ville qui est pleine de paradoxes.
650 000 habitants, autant dire un village, hein, surtout comparé à des capitales comme Mexico, Le Caire, Pékin, toutes ces villes où nous nous sommes promenés ces derniers jours chez 7 milliards de voisins. Là, on est dans un trou.
Je préfère le beau village, personnellement, mais oui, effectivement, c'est une petite ville. Même à l'échelle des États-Unis, par rapport à New York, par rapport à Los Angeles, par rapport à d'autres grandes villes, c'est vrai que 650 000 habitants, c'est pas grand-chose. Alors, c'est un petit peu plus que ça, en fait, parce que l'agglomération qui entoure Washington, à proprement parler, compte beaucoup plus d'habitants que ça.
En fait, c'est un 5 ruban, millions. C'est un ruban de villes qui forme une mégalopole, presque.
Alors, la mégalopole, elle s'étend même de Boston jusqu'à Washington, et Washington est la dernière ville tout au sud avant qu'on rentre dans la campagne, entre guillemets, de Virginie. Et là, pour le coup, on sort effectivement des grandes villes.
650 000 habitants, donc les mauvaises langues se demandent déjà, mais quelle idée d'avoir choisi Washington? Il ne se passe rien à Washington, surtout comparé à New York.
Mais c'est pour ça que ça a été choisi. C'est parce qu'il s'y passait rien. C'est parce qu'à l'époque où la Constitution des États-Unis est écrite, il faut trouver un endroit pour mettre le gouvernement fédéral, puisqu'il va bien falloir unir toutes ces colonies. Et bien, il y a déjà à l'époque le Nord et le Sud qui font un peu la course au pouvoir, la course à l'économie la plus forte. Et il faut arriver à trouver un endroit où positionner ce gouvernement fédéral qui soit à mi-chemin entre les deux. Et puis, il ne faut pas que ce gouvernement fédéral il soit trop fort, il soit trop puissant. Donc, on choisit un endroit qui est une zone hyper marécageuse. Il n'y a rien. Il y a des marais. C'est pas très loin de l'endroit où les premiers colons ont d'ailleurs mis pied aux États-Unis. C'est à quelques centaines de kilomètres. Et on choisit cet endroit-là parce que justement, il est à mi-chemin entre le nord et le sud. Il est a priori pas très puissant. Il n'y a pas une économie très forte dans cette région-là. Et c'est ça qui va devenir la capitale fédérale des États-Unis.
Washington DC, ennui et qualité de vie. Une ville où l'on respire l'air pollué de la politique et le parfum des cerisiers au printemps. Milliards de voisins, vivre dans une ville paradoxe, Washington DC, avec Raphaël Rennes dans le studio de RFI. C'est vous qui signez le programme musical aujourd'hui, Raphaël.
Mais lourde tâche. Bruce Springsteen pour commencer, American Land. C'est pour plusieurs raisons que j'ai choisi ça. D'abord parce que Bruce Springsteen est très engagé en politique, actuellement aux côtés de Barack Obama, mais il l'a été avant aux côtés d'autres démocrates, essentiellement des démocrates. Il n'est pas du tout de la région, il est du New Jersey, Bruce Springsteen. Mais cette chanson-là raconte la constitution de la Amérique, ce pays d'immigration, c'est vraiment tout ce qu'on peut imaginer des États-Unis. Et Bruce Springsteen, c'est la personnalité, le chanteur qui est le plus souvent nommé par les Américains quand on leur demande qui devrait écrire un nouvel hymne, s'il devait y avoir un nouvel hymne américain. La plupart des Américains disent que c'est Bruce Springsteen qui devrait le faire.
Alors, ceci dit, c'est pas pour la musique qu'on vient s'installer à Washington D.C. Vous vous en doutez, les voisins et les voisines.
This generation of Americans has been tested by crises that steeled our resolve and proved our resilience. A decade of war is now ending. An economic recovery has begun. America's possibilities are limitless, for we possess all the qualities that this world without boundaries demands. Youth and drive, diversity and openness, an endless capacity for risk and a gift for reinvention. My fellow Americans, we are made for this moment, and we will seize it so long as we seize it together.
Washington DC, avec vous Raphaël Arène, c'est la ville du président américain, quel qu'il soit. Il se trouve que là, on vient d'entendre le président Obama.
C'est la ville de résidence du président, la Maison Blanche, bien entendu, qui est sans doute l'endroit le plus visité de Washington par les touristes du monde entier quand ils viennent. Discours d'investiture ou de réinvestiture de Barack Obama, c'était en janvier 2013. Il avait été réélu au mois de novembre 2012, assez largement. Et ce discours, c'est le discours traditionnel d'investiture. C'est un discours qui est censé rassembler tous les Américains. Il n'y a plus d'enjeu à ce moment-là. Il a gagné, il est réélu, il repart pour 4 ans. Et là, on l'entend, qui compte sur la jeunesse, il compte sur l'unité nationale. Il y a toujours beaucoup d'emphase. Ça se fait au pied des marches du Congrès, du Capitole, sur cette immense esplanade qui fait plusieurs kilomètres de long, qu'on appelle le National Mall, grande pelouse avec l'obélisque. Enfin, c'est très spectaculaire. Il est tout en haut perché et il y a à peu près 1 million de personnes qui sont sur cette pelouse et qui sont venues suivre le discours de réinvestiture. Certains viennent traverser les États-Unis complètement pour venir assister à cette
fête-là. Heureusement, ça n'est qu'une fois tous les 4 ans. Néanmoins, tous les 2 jours, il y a des manifestations devant la Maison Blanche. Ça rythme le quotidien des habitants de Washington, D.C.
En tout cas, de ceux qui passent devant la Maison Blanche, ou derrière d'ailleurs la Maison Blanche, parce que les manifestations se font devant, derrière, c'est toujours difficile à dire, mais la partie arrière de la Maison Blanche, c'est celle qui est en fait collée à la ville. La partie qui est devant, c'est celle où il y a ces grandes pelouses où l'hélicoptère atterrit, donc on n'y a pas vraiment accès, on est assez loin du bâtiment. Mais de l'autre côté, sur l'esplanade qui s'appelle Lafayette, d'ailleurs, c'est assez intéressant, sur cette esplanade-là, les manifestations sont autorisées, elles doivent être bien entendu déclarées, mais elles sont autorisées, et la grande tradition de liberté de parole aux États-Unis fait qu'il y a à peu près tous les 2 jours, effectivement, des gens qui viennent manifester. Alors ça peut être des immigrants, ça peut être des pros ou des anti-armes à feu, et ça rythme effectivement le quotidien des gens qui vivent et qui travaillent dans ce quartier-là.
Dans ce quartier où d'ailleurs les places de parking sont hors de prix. Enfin, plus trivialement, on n'a pas tellement intérêt à être dans ce coin-là ou être obligé de travailler dans ce coin-là.
Il vaut mieux prendre le métro quand on travaille dans le taxi, quand on travaille dans ce coin-là, parce qu'effectivement les places de parking
sont très bien financièrement parlant, c'est
assez prohibitif.
Ouais. Peu de transports en commun d'ailleurs à Washington.
Ils sont très fiers de leur métro, les Washingtoniens. Ils ont un métro, il n'y a pas beaucoup de lignes, je ne sais même pas combien il y en a exactement, il doit y en avoir 5 de lignes de métro, mais ils en sont tout de même très fiers. Alors il y a beaucoup de... On se moque gentiment des Washingtoniens parce qu'ils l'appellent le métro, et pas le subway comme à New York, ou underground comme ça peut être à Londres. Donc c'est métro, c'est un côté un peu français et un peu précieux, mais ils en sont très fiers parce qu'effectivement il est beau, en particulier la ligne qui passe pas loin de la Maison Blanche. Il faut savoir que les stations de métro sont climatisées, ce qui fait très chaud à Washington. On en parlera dans un instant, j'imagine.
Très chaud et très froid.
Mais l'été, il fait vraiment très chaud, très lourd. Et quand on descend dans le métro, qui est assez profond sous terre, tout d'un coup, on sent cette fraîcheur parce que les stations sont climatisées aussi.
Néanmoins, donc, une vraie qualité de vie à Washington. Mais c'est pas pour la qualité de vie, finalement, vraiment, qu'on vient s'installer à Washington. C'est par ou pour la politique.
President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. Do I believe in him? That's beside the point. Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. Look at that winning smile, those trusting eyes. I latched onto him early on and made myself vital. After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. Oh, Jim Matthews, his right honorable vice president, former governor of Pennsylvania. He did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart, and now they're about to put him out to pasture. But he looks happy enough, doesn't he?
Alors pour nos voisins ou voisines qui ne comprendraient pas l'anglais, en fait on vient d'entendre un extrait de la fameuse série américaine House of Cards, qui a un immense succès, qui est une série télévisée assez intello, hein.
Ah oui, c'est un télo, ou en tout cas assez compliqué à suivre. Il faut avoir, un, le goût de la politique, deux, le goût de la politique américaine en particulier. Alors, c'est une série américaine, celle-là, cette version-là, c'est la version américaine, mais c'est tiré d'une série britannique des années 80 ou 90, je ne me souviens plus exactement. C'est un remake, en quelque sorte, adapté, bien entendu, à la vie politique américaine, et qui raconte le cynisme de cette vie politique. Le personnage principal, qui est interprété par Kevin Spacey...
Donc c'est Frank Underwood, qui est un type, un politicien américain, bon, fictif, hein, évidemment, qui est vraiment le type même de l'intrigant.
Quel intrigant parfait. Il est, au moment, au début de la série, il est chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, et il n'a qu'une seule ambition dans sa vie, c'est devenir président. Et pour ça, il est prêt à faire les pires choses au monde, légales et surtout illégales, et à prendre tous les chemins de traverse possibles, y compris quitte à tuer ou faire tuer des gens qui se mettraient sur son passage. Il est vraiment, vraiment atroce, mais il en devient presque sidérant tellement il est cynique et capable.
Dans le fond, ça, c'est l'image que dégage Washington d'ici pour le reste de l'Amérique. Les Américains, quelle image ont-ils de cette ville-là, dans le fond?
Je crois que c'est clairement l'image qu'ont un certain nombre d'Américains. Ça a été multiplié, démultiplié par ce qu'on appelle les Tea Party, qui est en fait une frange de droite très dure aux États-Unis, très populiste.
Archi-conservatrice.
Et qui n'arrête pas de répéter que Washington, et quand on dit Washington, on dit le gouvernement de Washington, le gouvernement fédéral, met les pieds là où il ne devrait pas, que les États devraient être libres de faire ce qu'ils veulent, qu'il y a trop de lois fédérales, qu'il y a trop d'impôts fédéraux.
Donc la ville des manigances.
Et c'est la ville des manigances. Et c'est vrai que...
Comparé à quoi? Comparé à la vraie politique locale dans chaque État?
Oui, parce que les Américains ont ce sens de la politique locale. Le maire, le conseiller de quartier, tout ça, c'est très important.
Il met les mains dans le cambouis,
Il met les mains dans le cambouis, il connaît les gens, il connaît les problèmes, il est sur le terrain, et il y a une distance, bien sûr, géographique qui est immense. Quand on est au fin fond de l'Arkansas ou du Montana et qu'on regarde Washington, c'est même pas avec une paire de jumelles, il faut un télescope pour voir Washington. Et il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas les moyens de voyager, qui n'ont pas les moyens d'aller sur place voir comment ça se passe. Alors il y a une part de fantasme dans l'esprit des Américains sur ce que c'est que Washington. Il y a une part de réalité aussi, parce que ce cynisme politique, il existe dans toutes les capitales du monde, et Washington, qui est une énorme capitale, forcément a un certain cynisme. Donc ce fantasme est doublé d'une certaine réalité, ou l'inverse.
Et en même temps, Washington, c'est une ville qui paye très cher sa proximité géographique avec le pouvoir, en termes de représentation politique réelle.
Elle le paye très cher au sens propre du terme, ou en tout cas elle n'en jouit pas du tout, et ça c'est encore ce que je disais tout à l'heure à propos du lieu où on a établi la capitale, reste vrai aujourd'hui de la manière dont on fait vivre cette capitale. Washington, c'est là que tout le pouvoir américain est concentré là-bas. Il y a la Maison Blanche, il y a le Congrès, il y a le Sénat, donc le Congrès, les chambres des représentants et le Sénat,
il y a le Pentagone,
il y a la Cour suprême, tout le pouvoir est centralisé à Washington. Et pour les habitants de Washington, en tout cas pour les Américains, il y a un scepticisme, et il y a une accusation permanente envers Washington comme étant en train d'intriguer.
Et en même temps, paradoxe, c'est que à Washington, il n'y a pas de sénateur du district où se situe D.C. On n'a pas dit d'ailleurs ce que vous voulez dire D.C.
Alors, c'est District of Columbia.
Voilà. Il n'y a pas un sénateur pour ce district.
Il n'y a pas un sénateur, il n'y a pas un représentant.
Qui représente quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a 650 000 personnes qui ne sont pas représentées au Congrès?
Alors, elles ont une représentation, mais ce sont des personnes qui siègent sans avoir le droit de vote au Congrès. Pourquoi? Parce qu'on estime que comme ils ont le pouvoir à Washington, il ne faut pas que cette population puisse prendre des décisions qui lui seraient trop en sa faveur.
Mais en même temps, tous ces gens-là, ces salariés à Washington, qu'ils soient fonctionnaires ou pas, c'est vrai que c'est la ville des fonctionnaires, mais payent des impôts
Ils n'ont pas leur mot à dire. Et ils n'ont pas leur mot à dire. En tout cas, leurs représentants n'ont pas leur mot à dire sur les lois fédérales qui sont votées par le Congrès.
Quel est le fameux slogan là qu'on dit souvent?
Taxation without representation. Taxation sans représentation. C'est écrit sur toutes les plaques minéralogiques, toutes les plaques des voitures de Washington D.C. C'est le slogan qui est systématiquement inscrit sur ces plaques.
D.C., la ville, on ne va pas dire aux 1000 fonctionnaires. Enfin, c'est la ville où il y a le plus de fonctionnaires, de représentants du gouvernement fédéral dans tous les États-Unis. 650 000 habitants, 400 000 personnes qui viennent chaque jour y travailler, donc embouteillage absolument monstrueux pour cette petite ville de province, finalement.
C'est une petite ville de province qui se retrouve assiégée comme chaque matin.
Et le soir, le poumon qui se dégonfle.
Exactement. Hein. Alors, pour donner une petite anecdote, il y a plusieurs avenues dans Washington qui n'ont pas le même nombre de voies descendantes et montantes en fonction des heures de la journée. L'avenue Connecticut, par exemple. Alors, c'est une petite parenthèse, à Washington, il y a une avenue par État des États-Unis. Donc il y a 50 avenues qui portent les 50 noms des États. Des États. Et l'avenue Connecticut, eh ben, le matin quand vous descendez, je crois qu'elle doit faire 7 voies de large. Et le matin, il y a 4 voies qui descendent vers le centre-ville et 3 voies qui remontent. Et peut-être même qu'à certaines heures, c'est 5 et 2. Et le soir, à l'heure où les gens quittent Washington, c'est l'inverse.
Ah, il en a changé les sens et les voies.
Quand vous arrivez là-bas, c'est un véritable enfer, c'est une panique totale.
On part à 5 heures du matin pour arriver au bureau à l'heure, à peu près.
Absolument.
C'est ça. Et puis, alors les fameux horaires à Washington, comme dans le reste des États-Unis, c'est un peu 9 to 5, hein, comme on dit, c'est
9 ça 9h-5h, mais ça, ouais. C'est très américain.
Pas de pause déjeuner.
On prend pas de pause déjeuner, on déjeune sur son lieu de travail, on mange très très vite. Voilà. Par contre,
on travaille massivement dans toutes ces agences fédérales, dans ces ministères, etc. Hein, dans les agences internationales, la Banque mondiale, le FMI, il y a du job.
Ah ben, il y a du boulot. Alors, c'est pas forcément des Américains, d'ailleurs. Il y a beaucoup de fonctionnaires internationaux, beaucoup d'étrangers qui vivent à Washington. Et effectivement, on travaille beaucoup. Alors, si vous demandez aux Américains qui ne sont pas à Washington, ils vont toujours vous dire qu'à Washington, on travaille pas tant que ça. Mais effectivement, ils travaillent. En tout cas, ils sont présents au travail de 9h à 17h. Mais à 17h, c'est comme la sonnerie de la classe à l'école. Tout le monde sort du travail. Tout le monde reprend sa voiture, va soit à la maison, soit ailleurs. Mais effectivement, il y a une espèce d'hémorragie et ce poumon se vide.
C'est ça. Donc, on travaille ou on conspire selon les situations. Raphaël Rennes, vous êtes un gentil gars, vous avez absolument voulu sortir de nos tiroirs l'hymne national enregistré. Il paraît que c'est un superbe enregistrement.
Je ne sais pas si l'enregistrement est superbe, c'est moi qui l'ai réalisé. Ce que j'ai aimé en tout cas, c'était l'interprétation. C'est donc l'hymne américain, Star Spangled Banner. Cet enregistrement-là, je l'ai fait à un des premiers meetings de Barack Obama pour la campagne de 2012. Et j'ai aimé l'enregistrement parce que la qualité des chanteurs est très au-dessus de ce qu'on peut entendre, notamment tous les week-ends. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un match d'un sport quelconque aux États-Unis, on commence par l'hymne américain. C'est valable de l'école primaire jusqu'à la fin de l'université, chez les professionnels, chez les amateurs, c'est toujours comme ça. Et je peux vous dire, pour avoir assisté à un certain nombre de ces matchs, que l'hymne américain peut être massacré de manière assez impitoyable. Et que quand on entend des jeunes chanteurs, alors bien entendu, il y a le président américain en exercice et candidat à sa succession qui est là et qui vient parler aux journalistes et à la foule. Donc forcément, on met des chanteurs d'un peu meilleure qualité. Mais dans la même campagne, j'ai entendu certains meetings avec d'autres candidats où la qualité de l'enregistrement, la qualité des chanteurs n'était pas la même.
Heureusement, vous nous avez apporté d'autres choses dans votre besace de programmateur musical pour 7 milliards de voisins, Raphaël Rennes. Vivre dans une ville paradoxe, Washington DC. Raphaël Rennes, vous signez la programmation musicale de 7 milliards de voisins aujourd'hui pour parler de Washington DC, ville paradoxe, Seven Nation Army.
Oui, Seven Nation Army, c'est l'un des hymnes, c'est l'un des hymnes chantés, enfin joués au match de baseball de l'équipe de baseball de Washington. Il y a chaque joueur a un hymne et ça c'est l'hymne de Steven Strasburg qui est un des batteurs phares, une des stars de cette équipe. Et puis comme je sais que vous êtes un peu rock'n'roll, je me disais que ça ferait du bien dans cette émission.
Raphaël Rennes, vous êtes notre raconteur pour nous faire partager un peu de ce quotidien dans la ville paradoxe, Washington. Pendant des décennies, Washington, et c'est encore la ville du pouvoir, la ville des diplômés, mais c'est aussi, on l'oublie, une ville noire. Les Afro-Américains qui précisément étaient largement écartés du pouvoir, un paradoxe au moins symboliquement gommé avec Barack Obama. Mais il suffit de rouler dans la ville pour comprendre où sont les lignes de démarcation. 7 milliards de voisins, on se retrouve juste après le flash dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins et les voisines, et vous-même, Raphaël Rennes. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins vivent dans une ville paradoxe, Washington DC, sur la côte est des États-Unis. Avec vous, Raphaël Rennes, pendant 3 ans correspondant permanent pour RFI. Vivre à Washington, alors que s'est déroulé le sommet US-Africa, Barack Obama a reçu pour la première fois 48 chefs d'État africains. Autant dire que la ville, alors là, est quasi interdite à la circulation. Là, c'est le paroxysme du bouclage événementiel politique à Washington. Les fonctionnaires sont autorisés à rester chez eux, d'ailleurs, hein, pendant qu'il y a de tels événements. On a oublié de dire, en tout cas, on l'a pas encore bien expliqué, Raphaël, que Washington, c'est la ville qui concentre le plus de diplômés aux États-Unis, à peu près 19% de diplômés, c'est très important. C'est aussi une ville assez universitaire.
C'est une ville universitaire. Il y a beaucoup d'universités dans Washington.
Donc, étudiants et profs, hein, ce qui évidemment.
Étudiants et profs, par rapport à la taille de la ville, c'est une toute petite ville, enfin, c'est une grande ville, mais c'est par rapport à la taille des États-Unis, c'est minuscule. Ça fait 177 km², je crois, ce qui est pas énorme. Il y a beaucoup d'universités à l'intérieur de Washington. Elles sont pas forcément les plus prestigieuses des États-Unis. On connaît en général l'université de Georgetown parce que historiquement, c'est l'une des plus anciennes, qu'elle fait partie des meilleures universités américaines.
Oui, mais Bill Clinton est passé par là quand même.
Bill Clinton est passé par là quand même, mais il est pas le seul. Il y a eu de nombreuses personnalités américaines qui sont sorties des universités de Washington, mais c'est clairement pas les grandes universités que sont Harvard, Yale, Princeton, qui sont toutes sur la côte est, qui sont toutes plus au nord, dans la Nouvelle-Angleterre, historiquement le berceau de ce pays, attirent beaucoup plus de candidatures. Maintenant, il est évident que Washington, on y va quand on veut faire de la politique, quand on veut faire...
Donc, étudier les sciences politiques, c'est ça ?
Étudier les sciences politiques, c'est Georgetown.
Voilà, quand on veut du droit politique.
Le droit politique, de la médecine politique. Non, quand on veut faire, par exemple, en médecine, quand on veut faire de la recherche... Eh ben, l'université George Washington est une très bonne université parce qu'il y a le NIH, l'Institut National de la Santé, qui se trouve à l'extérieur de Washington mais qui est très très proche. Donc, quand on a envie de devenir un grand chercheur en médecine, on va faire médecine là-bas. Et c'est un petit peu le cas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diplômés, parce qu'ils viennent pour étudier, puis ils y restent pour travailler parce qu'il y a aussi beaucoup de travail à Washington.
Et puis, dans les universités, vous n'avez pas encore mentionné la fameuse université Howard University, qui est particulière.
Hein. Ah ouais, c'est une université noire. Qui a été créé en tant que tel, qui a été créé, je ne sais plus exactement à quelle période, mais pour donner aux Noirs américains une éducation à une époque où ils en étaient quasiment privés, c'est-à-dire que ça date des droits civiques, et on est obligé, comme ils peuvent pas aller dans les universités blanches, faut bien leur donner une éducation, et on veut leur donner une éducation supérieure, une éducation de qualité, et Howard University va être créé là-dessus. C'est un campus qui se trouve à l'époque légèrement à l'extérieur de Washington. Elle est dans le district, mais elle est à l'extérieur de la ville, vraiment du centre-ville. Depuis, elle a été complètement rattrapée. Aujourd'hui, elle est quasiment littéralement dans le centre-ville. C'est un petit campus par rapport à certaines universités.
Alors, il y a d'autres universités noires aux États-Unis. Ceci dit, il y en a une à Baltimore,
il y en a
une heure de route, etc. Mais aujourd'hui, finalement, en 2014, pourquoi un étudiant noir américain a envie d'étudier dans une université noire ? On peut se poser la question.
Il y a toujours un sens de la communauté. Il y a toujours un sens de la division sociale aussi. Les Noirs restent dans une communauté un peu à part. Bien entendu, et notamment avec l'arrivée de Barack Obama, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai vécu ça aux États-Unis. J'étais pas aux États-Unis quand Barack Obama a été élu, mais j'étais là quand il a vraiment engagé sa politique, quand il est devenu le président de tous les Américains, en quelque sorte, même si aujourd'hui, il est sans doute l'un des moins aimés des derniers présidents américains. Il est très bas dans les sondages, mais ce changement qu'il y a eu avec l'arrivée de Barack Obama ne change rien au fond des choses. Et quand on est noir aux États-Unis et qu'on a la chance d'aller à Howard University, qui aujourd'hui est une université de haut niveau, eh ben on y va, parce qu'on va avoir cet enseignement communautaire et communautariste qui est complètement admis aux États-Unis, qui pourrait nous choquer nous en France, mais qui aux États-Unis quelque chose qui passe bien. À Salt Lake City, il y a une université mormone. Et quand on est mormon et qu'on grandit à Salt Lake City, on veut aller dans cette université-là parce que c'est celle de sa communauté.
Et alors, comme on est dans le pays des statistiques ethniques, on sait qu'à Washington, c'est une ville noire à 58%, ce qui veut dire que toute la première partie de l'émission, on a raconté que c'était la capitale des fonctionnaires, la capitale des diplômés, la capitale du personnel international, la capitale des manigances politiques, c'est aussi la ville noire.
C'est une des villes noires,
avec Détroit, avec Atlanta, Baltimore.
Beaucoup de grandes villes, il y a aussi beaucoup de villes dans le Mississippi, etc., qui sont des plus petites villes, qui sont à majorité noire, mais 58%,
mais
c'est vrai que c'est...
quoi dans le quotidien de quelqu'un comme vous qui avez passé 3 ans à Washington, alors ?
Eh bien, ça veut dire que... Alors, bizarrement, on pourrait penser qu'on se retrouve dans une ville où on va croiser des Noirs à tous les coins de rue, où on va se mélanger, ces cultures, parce que ça reste une culture assez identitaire et assez forte. Mais finalement, c'est pas vrai. Et ça, c'est l'un des paradoxes de cette ville dont j'avais envie de parler. C'est que Washington est encore une ville coupée entre les quartiers noirs, les quartiers blancs. Il y a une zone un peu mixte qui s'est beaucoup développée ces dernières années parce que financièrement, il y avait de plus en plus de gens qui avaient besoin d'avoir des logements et donc les quartiers se sont mélangés doucement. Il y a plus de mixité aujourd'hui, c'est certain, mais il y a encore des quartiers où il est très rare de croiser des noirs et des quartiers où il est assez rare de croiser des blancs. Et quand on est comme moi, blanc, et qu'on va dans les quartiers noirs, on est repéré assez facilement, on nous voit et on nous regarde, et l'inverse est sans doute vrai aussi. Et ça, c'est un des paradoxes très forts de cette ville qui est censée être représentative de l'unité nationale et du fait qu'aujourd'hui on est tous américains et avant même d'avoir une couleur ou une religion. Et finalement, quand on vit à Washington, on est soit d'un côté, soit de l'autre de cette limite un peu virtuelle, mais qui est presque réelle sur le terrain.
Donc on est dans une ville largement plus noire que la moyenne aux États-Unis.
Très largement.
Très largement, puisqu'on est peut-être autour de quoi, 12-15%.
Ouais, aux alentours de 15%.
Beaucoup moins latinos, en revanche, que la moyenne aux États-Unis. Donc c'est noir et blanc, grosso modo.
C'est noir et blanc. C'est un peu.
C'est la ville domino, quoi.
C'est un peu la ville domino. C'est un petit peu ça. Alors il y a des latinos, il y a des hispaniques, comme on dit, qui sont assez nombreux, même si effectivement, d'un point de vue statistique, ils le sont beaucoup moins que dans le sud, l'extrême sud des États-Unis, notamment le sud-ouest, à la frontière avec le Mexique. Et c'est vrai que les deux grandes communautés, ça va être la communauté blanche, la communauté noire, qui vivent côte à côte, qui vivent ensemble, quand même. Il faut le dire. On n'est plus dans les années 60, bien évidemment. Il y a bien évidemment plus de ségrégation politique et légale, mais il y a une ségrégation économique qui s'est effectuée. Washington est divisé en quatre grandes régions. Le nord-ouest, qui est vraiment le quartier le plus blanc et le plus riche, et l'est de la ville, donc le nord-est est un petit peu mixte, et le sud-est, qui est un petit quartier qu'on appelait Anacostia notamment, qui est de l'autre côté du Potomac, ça c'est un quartier qui est peut-être à 80 ou 90% noir. Ça change un petit peu, ça commence doucement à changer, il commence à y avoir des familles qui vont s'installer là-bas.
Mais il y a eu une gentrification, comme on dit, un embourgeoisement, par exemple, dans ce ghetto noir d'Anacostia, puisque c'est quand même beaucoup comme ça qu'on l'a appelé, avec une bourgeoisie noire, des gens qui...
Il y a une bourgeoisie
ont...
noire qui se développe, bien évidemment.
Il y a des avocats d'affaires noirs qui gagnent très bien leur vie, il y a toute une élite, bien évidemment.
Des politiques, etc. Il y a des lobbyistes noirs, il y a des tas de personnes.
Alors ces gens-là reviennent par exemple dans ces quartiers-là ?
Pour certains d'entre eux, pour certains ils s'installent dans les quartiers blancs parce que quand on a un certain niveau de vie et qu'on a envie d'avoir une jolie maison dans un joli quartier, on va plutôt aller s'installer dans les quartiers dit quartier blanc, donc on voit ce phénomène-là aussi, mais il y a effectivement un certain nombre de Noirs américains qui sont très fiers de leurs origines et qui tiennent à rester dans leur quartier, qui vont investir dans leur quartier, qui vont non seulement faire construire leur maison, mais ils vont peut-être financer les maisons des voisins, ou ils vont faire venir des amis, ils vont les installer dans des magasins, ils vont leur faciliter les choses pour faire vivre leur quartier. Alors ça, c'est vraiment effectivement le dessus du panier économique. C'est des gens qui ont vraiment d'importants moyens, mais cette gentrification, elle existe, je l'ai vu, elle marche pas mal. Ces quartiers qu'on appelait des ghettos le sont moins. Alors j'ai tendance à penser que c'est aussi parce que, comme dans toutes les grandes villes, les pauvres sont repoussés de plus en plus loin du centre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter dans ces quartiers-là, et puis le prix du mètre carré devient insupportablement cher.
Parce qu'on a parlé de l'enrichissement grâce à la politique, et on va en reparler avec vous, Raphaël, bien évidemment, les fameux lobbyistes, etc., les intrigants autour du pouvoir qui génèrent beaucoup de cash, mais il y a beaucoup de gens pauvres à Washington et autour de la ville.
Il reste beaucoup de gens pauvres, il y a des quartiers très pauvres.
Qui ont besoin de l'aide alimentaire, etc.
Des food stamps, vous savez, ces tickets que vous pouvez récupérer auprès des services sociaux qui vont vous permettre d'aller acheter à manger dans des épiceries, des supérettes spécialisées là-dedans, qui vous permettent aussi parfois d'aller vous payer une coupe de cheveux chez le coiffeur ou chez le barbier, parce que dans ces quartiers-là, le barbier, il accepte les food stamps, même s'il ne devrait pas forcément le faire, mais il faut bien rendre service, donc on se débrouille débrouille un peu comme on peut. Il reste beaucoup de pauvres. Il y a aussi de la pauvreté extrême dans le centre-ville de Washington, comme dans tous les centres-villes des grandes villes américaines. Il y a beaucoup de mendiants, de gens qui font la manche. Probablement, j'ai bien entendu pas de statistiques précises là-dessus, on voit beaucoup de Noirs américains, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup de vétérans qui sont venus à Washington pour essayer de se faire entendre, et puis ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien, ils vivent dans la rue.
Apporté sur un plateau d'argent par Raphaël Rennes. Nous sommes à Washington DC, dans la ville Paradoxe. Et qui l'eût cru, qui s'en souvient, le prince de la Soul qui est né, qui a passé une partie de son enfance à Washington DC.
Oui, né en plein centre de Washington à l'époque, en tout cas. Il a grandi effectivement à Washington DC. Il en est parti assez jeune, notamment parce qu'il avait des relations très tendues avec son père qui va l'assassiner à la veille de son 45e anniversaire.
En 84, à Los Angeles, à l'autre bout des États-Unis.
À l'autre bout des États-Unis. Alors, il avait des relations difficiles. Il a effectivement quitté Washington assez jeune. Il est venu en Europe notamment. Et puis après, ça a été la descente aux enfers. Il a sombré dans la drogue, mais il reste une des figures. Alors bizarrement, à Washington, c'est pas une personnalité qu'on met tant en avant que ça. Il faut se balader un petit peu dans le quartier où il a grandi, vers U Street, qui est le quartier noir historique de Washington, pour tomber sur un bar-restaurant qui s'appelle Marvin, qui rend hommage à Marvin Gaye. Alors vous allez pas le croire, c'est un bar belge. Parce qu'en fait, Marvin Gaye a passé une partie de sa vie, vers la fin notamment de sa vie, avant de retourner à Los Angeles, à Ostende en Belgique. C'est là notamment qu'il a écrit Sexual Healing, un de ses plus grands titres. Et alors, du coup, y a des Belges qui sont venus lui rendre hommage dans sa ville de naissance. Et ce bar-là passe de la musique de Marvin Gaye en permanence. Il y a des tableaux partout, des portraits, etc.
Alors là, on est à l'époque de Marvin Gaye, où Washington, D.C., perdait des habitants, où c'était quand même un peu la ville coupe-gorge. Où est-ce qu'on en est ? Vous savez que les auditeurs aiment bien savoir, quand on parle d'une ville, Raphaël, si elle est dangereuse ou pas. Où est-ce qu'on en est de Washington, qui a longtemps été une ville considérée comme dangereuse aux États-Unis ?
Ça a été une ville dangereuse, ça a même été une des villes les plus dangereuses des États-Unis, puisque le taux de criminalité à une période était le plus élevé des États-Unis, ça a duré quelques années. Il y a un nombre de crimes violents qui fait pâlir quand on regarde ces chiffres.
19 homicides aujourd'hui pour 100 000 habitants, c'est-à-dire beaucoup plus qu'à New York. Moi, j'ai retrouvé New York, 4 homicides pour 100 000 habitants, donc c'est beaucoup
New York
plus cool.
Aujourd'hui, parce que New York, à une époque, c'était un petit peu différent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, New York est une ville très policée, Washington l'est un peu moins, notamment tous les quartiers durs, les quartiers difficiles, qui sont donc plutôt dans l'est de la ville. C'est là que sont commis la majorité des crimes. Bien entendu, il y a de la criminalité à peu près partout. Alors, je dirais pas que c'est une ville dangereuse. Moi, c'est une ville dans laquelle je me suis promené à toute heure du jour et de la nuit, en restant dans des quartiers tranquille, forcément. Mais j'avoue que le centre-ville, par exemple, de Washington, qui est un business district, c'est un centre d'affaires et de pouvoir, passé 20h, 21h, il reste pas beaucoup de restaurants ouverts, il reste pas grand monde dans la rue. Alors, il y a quelques voitures de police, quand même, qui patrouillent.
Donc, on traîne pas.
On traîne pas. Mais on n'a pas vraiment de raison d'y traîner non plus. Et comme dans toutes les grandes villes américaines, on prend plutôt sa voiture assez facilement pour aller d'un point A à un point B. Et quand on n'a pas de voiture, ben, on prend les transports en commun ou on essaye de prendre les bus qui sont un peu plus sécurisés. Mais c'est vrai que ça reste une ville en demi-teinte, j'ai envie de dire. On va pas se balader dans n'importe quel quartier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Alors, c'est une ville qui reste violente. Parce que de toute façon, dans les villes américaines, on a cette liberté du port d'armes, mais ça fait partie encore des villes.
Pas à Washington. À Washington, même, le port d'armes est interdit. Alors, dans la ville
c'est
de
ça.
Washington.
Dans le centre-ville même.
Ouais. Mais dès que vous sortez de Washington, et surtout si vous allez du côté de la Virginie, vous avez le droit de porter une arme pour aller au supermarché ou chez le docteur. Donc effectivement, ça pose des problèmes. C'est un saut de puce. Hein. Il suffit de passer une rue, passer le Potomac en général, pour se retrouver du côté de la Virginie.
Ça reste, ceci dit, fréquemment dans les classements des meilleures villes américaines où il fait bon vivre, hein, comme l'indiquent les classements. Washington est toujours très bien classé, non ?
Parce que c'est agréable. Alors, quand on a un peu d'argent et qu'on n'est pas forcément dans la pauvreté la plus extrême, on peut vivre à Washington de manière assez agréable. C'est vrai que c'est une ville aussi qui est très aérée et avec beaucoup d'espaces verts. Il y a le Potomac, donc cette immense rivière qui traverse la ville, qui est même la frontière de la ville, littéralement, avec la Virginie. Il y a énormément d'espaces verts et il y a un truc qui est assez particulier à Washington. Aucun bâtiment n'a le droit de dépasser le plus haut point de la coupole du Congrès, donc du Capitole. Donc Washington même est une ville qui n'a pas de gratte-ciel. Pour trouver des gratte-ciels, il faut traverser le Potomac, il faut aller à Alexandria, qui est juste de l'autre côté, qui est en fait le centre, ce qui ressemblerait à un downtown dans n'importe quelle autre ville américaine. Et donc cette ville est assez basse, on voit le soleil, on voit le ciel gris aussi, mais au moins on a de l'air. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles...
L'air, de la lumière, et on l'oublie, beaucoup de culture à Washington D.C. Avec vous, Raphaël Rennes, vivre dans la ville paradoxe, Washington D.C. Et on vient d'entendre un morceau du pape du jazz, Just a Sitting.
Just a Sitting Rocking.
Voilà.
Duke Ellington.
Mais là, c'est pas un plan à la Edith Piaf. Il est né à Washington. Enfin, c'est
un petit peu. D'abord, c'est un goût personnel parce que j'adore Duke Ellington. je me suis peut-être un peu servi personnellement d'abord, mais c'est pas non plus complètement anodin. Je vous parlais de Hugh Street tout à l'heure avec Marvin Gaye qui a grandi là-bas. Mais Marvin Gaye, il a grandi à deux rues de l'endroit où Duke Ellington a commencé sa carrière de pianiste de jazz. Il faisait des études très sérieuses et puis il les a arrêtées pour aller faire du piano, faire du jazz au Lincoln Theater qui se trouve sur
Hugh Street. Oui, je comprends bien. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui?
Alors,
dans
il
la
reste
vie
aujourd'hui
quotidienne des Washingtoniens.
Une visite de ce théâtre aujourd'hui. Vous pouvez aller visiter le théâtre et on va vous raconter comment Ellington a commencé là. Et de l'autre côté de la rue, il y a une grande fresque murale, c'est un portrait d'Ellington. Alors, les Washingtoniens eux-mêmes l'ignorent relativement, je pense, mais quand vous parlez avec les Noirs américains et ceux qui ont grandi à Washington, ceux qui ont des parents qui ont grandi à Washington et des grands-parents qui ont grandi à Washington, eux, ils savent que Duke Ellington et la Fitzgerald, tous les grands noms du jazz, ont commencé à Washington avant d'aller à Baltimore, Philadelphie, et puis de remonter à New York. Ça a mis du temps à envahir New York, le jazz. Et Ellington, bien sûr, quand on parle de Duke Ellington, on pense au Cotton Club à New York, plus qu'à Washington D.C. Bah pourtant, c'est là que ça a commencé pour lui et pour tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont été à ses côtés pendant toute sa carrière.
Washington D.C., ville paradoxe, c'est vrai qu'il y a le jazz, et ça, on l'oublie, mais il y a aussi énormément de musées. Ça, c'est une ville qui peut rivaliser avec New York de ce côté-là.
Ah, personnellement, je dirais que c'est une ville qui dépasse de très loin New York sur le plan des musées.
Avec une énorme différence, je dirais, pour le quotidien des habitants.
Et ça, il faut que les auditeurs l'entendent, les musées sont gratuits à Washington.
Ça veut dire que les Américains eux-mêmes vont au musée régulièrement, les gens de Washington.
On m'a souvent dit, quand je vivais aux États-Unis et que je rentrais en France, on me disait souvent, alors, les États-Unis, ils n'ont pas de culture, les Américains n'ont pas de culture. Je pense que c'est faux, je pense que les Américains s'intéressent avant tout à leur culture, peut-être, mais ils ont aussi une grande ouverture d'esprit, ils ont un accès, alors c'est vrai de Washington et c'est pas vrai des autres villes, hein. La majorité des Américains ne vivent pas à Washington et vont pas souvent au musée, mais toutes les classes de la région et beaucoup de classes de lycées dans le pays font des voyages pour aller à Washington, pour aller voir la Maison Blanche, le Congrès, mais aussi pour aller voir les musées. Et quand on va se balader un petit peu dans les musées de Washington, qui sont pour la plupart sur le Mall, sur cette grande esplanade, on peut y rentrer gratuitement. On y croise énormément d'étudiants, d'élèves qui viennent, qui vont écouter ce qu'on leur raconte, qui vont prendre des notes, qui vont aussi s'exprimer artistiquement, parce que ça, c'est une grosse différence entre le système éducatif à la française, j'ai envie de dire, et celui des Américains, c'est qu'on les fait participer, ils essayent, ils font. Et moi, j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de l'art, c'est la peinture, c'est de la sculpture, c'est aussi l'histoire, c'est aussi l'histoire de l'aéronautique. Il y a un musée de l'aéronautique qui est absolument fabuleux. Et comme il est gratuit, comme ils sont tous gratuits, ou presque, eh ben, on peut y aller, on y passe une heure, on en ressort.
Le week-end, après sa semaine de travail.
Exactement. Et on y emmène les enfants, parce que, ben, effectivement, il n'y a pas besoin ni de faire la queue, ou très peu, et ni besoin de payer une entrée.
Voilà, encore la qualité de vie, ville paradoxe, Washington DC. On a parlé des habitants de Washington, on a parlé de la communauté noire, bien évidemment aussi, mais on n'a pas parlé des très nombreux habitants étrangers qui sont venus là trouver du travail dans les agences internationales. Je sais qu'il y a des auditeurs de RFI qui nous écoutent sûrement à Washington, en français, qui sont au FMI, qui sont à la Banque mondiale. Il y a une vraie communauté d'étrangers à Washington.
Il y a plusieurs communautés d'étrangers à Washington. Il y a des tas de communautés d'étrangers. Il y en a quasiment une par pays dans le monde, parce que c'est...
Avec les restaurants qui vont avec.
C'est peut-être... Franchement, j'ai pas de statistiques sur le sujet, mais je pense que ça doit être la ville des États-Unis où vous pouvez goûter au plus grand nombre de cuisines différentes. Parce que chaque communauté qui est représentée, et chaque pays a une ambassade à Washington. S'il y a un endroit où on a une ambassade dans le monde, c'est à Washington. Et en général, elle est conséquente. Il y a beaucoup de personnel. Donc, il y a forcément du monde qui vit autour. Il y a des familles, il y a des gens qui viennent, et il y a des restaurants de toutes les nationalités sud-américaines, africaines, notamment les Éthiopiens, qui sont hyper nombreux à Washington. Je crois que c'est la deuxième ville qui compte le plus grand nombre d'Éthiopiens dans le monde, après Addis Abeba. Ils sont 250 000. Il y a un annuaire téléphonique exclusivement réservé aux Éthiopiens à Washington. Avec
il fallait
plus de
le savoir, merci Raphaël de nous le dire.
Pour les auditeurs qui seraient à Washington et qui cherchent des Éthiopiens, il faut chercher là-dedans.
Washington DC, ville paradoxe. Alors finalement, quand on a terminé sa journée de bureau, hein, parce que bon, c'est quand même une ville des services, une ville des fonctionnaires, une ville des agences fédérales, des agences internationales, on fait du sport comme tous les Américains, on va à la salle,
on fait du sport comme tous les Américains, mais on ne va pas à la salle comme tous les Américains, et notamment pas comme dans les grandes villes comme New York, ou Los Angeles. Il y a beaucoup moins de salles de sport parce qu'il y a des espaces verts partout. Il y a deux endroits notamment où on peut aller courir, faire son jogging, c'est sur les bords du Potomac. C'est absolument magnifique, c'est totalement préservé. Et puis il y a un parc naturel qui restait assez sauvage, qui traverse Washington du nord au sud. Il y a d'ailleurs une petite route qui le longe, ce parc, et que beaucoup de Washingtoniens utilisent pour aller travailler, parce qu'on peut partir de la banlieue nord et rentrer jusqu'à la Maison Blanche ou jusqu'au quartier de la Maison Blanche en restant dans la forêt.
Donc ça fait une boucle de combien, ça? Vous faisiez ça à l'époque?
Alors, je suis sans doute pas la personne la mieux placée pour vous parler du sport à Washington, n'étant pas particulièrement sportif, mais
on parle en miles, mais ça doit faire une trotte.
Ah, ça fait une trotte. Si vous le faites en entier, ça fait une trotte. C'est sans doute à faire après un bon entraînement. On doit être aux alentours d'une vingtaine de kilomètres,
quand
même.
Mais le vrai sport à Washington DC, finalement, est-ce que c'est celui-là, le sport en plein air, le footing, ou c'est un autre type de sport?
Alors, il y a un autre type de sport. Il y a le sport national qui consiste, après le travail, à aller boire une bière comme les Anglais le font. Vous savez, on va au pub à Londres. À Washington, on va dans les bars qui sont autour du Capitole. Quand on travaille dans le milieu de la politique, des lobbyistes, quand on a un intérêt pour cette politique, on va dans les bars, on va rencontrer les attachés parlementaires, les représentants.
Ça, vous étiez payé pour le faire, Raphaël.
Alors, j'étais payé pour le faire, j'étais payé pour faire plein d'autres choses aussi, vous savez, donc je n'ai pas fait tant que ça, mais c'est là qu'on va donner sa carte de visite, récupérer d'autres cartes de visite, se faire des contacts, ce que les Américains appellent le networking, et qui marche très très bien. C'est même la raison de vivre de tous ces lobbyistes.
Et on continue ensuite durant la nuit sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Raphaël Arène. Revenir à Washington pour quelques heures ou quelques jours, vous l'avez fait depuis votre départ ?
Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'y ai passé une partie du mois de juin pour retrouver un peu cet air qui me manque, parce que c'est une ville très attachante et c'est une ville où on peut à la fois faire des rencontres surprenantes et intéressantes, on peut se faire de vrais amis aussi. Je m'en suis fait, des vrais amis américains, des vrais amis du monde entier, parce qu'on a cette chance de mélanger toutes les cultures. C'est un melting pot incroyable. On dit souvent de New York que c'est un grand melting pot. Je trouve que Washington l'est au moins autant. Et puis, il y a peut-être une vraie différence, c'est que comme il y a cette qualité de vie à Washington, on passe du temps avec les gens et on fait pas seulement que courir dans des avenues et dans des grandes rues qui sont finalement fatigantes et usantes, à mon sens.
Donc vous êtes revenu voir les amis, respirer les cerisiers en fleurs, enfin qui étaient terminés au
c'était
mois de juin.
C'était un petit peu tard au mois
et...
de juin. Oui.
Et puis un peu la danse des politiques quand même.
Et puis renouer un peu avec la danse des politiques et suivre un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que c'est aussi un jeu extrêmement intéressant. Et quand on est journaliste et qu'on a cet amour de la politique et des choses du monde, et ben on aime en profiter.
Merci à vous, Raphaël Arène. Vivre dans la ville paradoxe, Washington DC. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophie Janin, Romain Dubrac. Pour toutes vos réactions, vous pouvez bien sûr nous écrire à 7milliards@rfi.fr et également réécouter toutes nos émissions en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, nous poursuivons nos rediffusions de la saison 2, Vivre dans une ville sous cloche, Pékin, avec Stéphane Lagarde, le journaliste qui ne dort jamais. Ne manquez pas le rendez-vous, vous serez tout sur la vie quotidienne à Pékin.